chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant mort et résurrection de Jésus. Vérité ou mythe ? Nous arrivons à l'étude numéro 5 et nous aurons un thème très très important et très compliqué. Et je conseille à ceux qui écoutent de réécouter ce message parce qu'il n'est pas évident que tout puisse être compris du premier coup. Chers amis, la source de la justice de Dieu découle du don de Jésus-Christ comme victime propitiatoire pour nos péchés. Notez Galates, chapitre 4, verset 4, et Galates, chapitre 3, verset 24 et 25, ainsi que Romains, chapitre 3, versets 24 et 25. Je répète, Jésus-Christ, victime propitiatoire pour nos péchés. Et je répète les indications, Galates, chapitre 3, versets 24 et 25, Galates, chapitre 4, verset 4, et Romains, chapitre 3, versets 24 et 25. Deux termes méritent une explication un peu plus détaillée. Nous savons la rédemption. Cela signifie être racheté. La rédemption signifie être racheté. À notre époque, un tel mot appartient au vocabulaire religieux. Il est rare qu'on l'emploie dans la vie de tous les jours. Cependant, jusqu'à une époque assez récente, on utilisait assez couramment le terme rachat, rédemption, le dérivé d'un verbe latin qui signifie racheter dans un sens même commercial. Aujourd'hui, on s'en sert surtout dans le domaine du droit des biens ou de la propriété, ainsi que dans le domaine financier. Le terme possède alors le sens de se libérer d'une obligation ou d'une servitude par le versement d'une indemnité, le rachat d'une rente ou d'une hypothèque, par exemple. De nos jours, l'acception commerciale est peu courante. On ne parle plus beaucoup de prix de rachat, mais on le faisait assez couramment il y a à peine un demi-siècle, quand on trouvait beaucoup d'établissements de prêts sur gage, c'est-à-dire les monts de piété. Pendant la Grande Dépression de 1929, quand les gens avaient un besoin pressant d'argent, ils pouvaient engager un objet de valeur tel que des bijoux, des montres de haute valeur et beaucoup d'autres choses chez un prêteur sur gage. Ce dernier, en échange d'une somme qu'il remettait au propriétaire de l'objet en question, s'engageait à conserver le bien pendant un certain temps selon l'entente conclue. Après quoi, il pouvait le mettre en vente dans sa boutique. Or, le propriétaire de l'objet mis en gage pouvait le récupérer au prix de rachat fixé par le prêteur, c'est-à-dire le montant du prêt initial, plus un certain pourcentage. L'objet en gage pouvait donc être racheté. Dans l'Antiquité, la notion de rachat ou rédemption était assez courante. On la trouve amplement dans la Sainte Bible, par exemple. Dieu racheta Israël de l'esclavage en Égypte, et elle était aussi courante dans le monde gréco-romain des affaires. Le mot faisait partie du vocabulaire quotidien dans toutes les cités impériales. On rachetait fréquemment des esclaves. On pouvait devenir esclave, oh oui, par suite, par exemple, d'une défaite militaire, après avoir été capturé par des pillards ou pour des raisons d'ordre économique. À l'époque, il n'y avait pas de loi protectrice sur les faillites. Par exemple, vous lancez dans les affaires, mais un ralentissement de l'économie touche votre entreprise et vous perdez tout ce que vous avez emprunté. Que faire? Il n'y a pas d'autre solution que de vous vendre avec toute la famille peut-être et devenir l'esclave de quelqu'un. Beaucoup étaient ainsi réduits à l'esclavage parce qu'ils avaient fait faillite. Mais vous me croirez menteur si je vous dis qu'il y a actuellement, en 2017, des pays qui détiennent des gens en esclavage et qui les font travailler aux travaux forcés jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pas une histoire que je vous raconte. Vous pouvez vous renseigner. Mais supposons qu'un cousin fortuné apprenne votre infortune. Il est bien nanti, un peu plus que moi tout de même. Je plaisante. Mais aussi un chic type. Et il décide de procéder à votre rachat. Il opère votre rédemption. Il parvient ainsi à un arrangement avec votre propriétaire. Les lois contenaient des dispositions qui visaient ce type de transaction. Grosso modo, les choses se passaient comme suit. Le rédempteur payait le prix du rachat de l'esclave à un temple païen. Je répète, le rédempteur payait le prix du rachat de l'esclave à un temple païen, plus un petit pourcentage variable qu'il versait au prêtre du temple. Ceux-ci versaient ensuite le montant du prix de rachat au propriétaire de l'esclave, et ce dernier devenait la propriété de la divinité du temple. L'esclave ainsi racheté de la servitude chez son ancien propriétaire devenait ainsi celui du Dieu qu'il avait racheté. Évidemment, être l'esclave d'une divinité païenne signifie qu'on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Cette façon de faire était une sorte d'artifice juridique qui permettait de déclarer qu'une personne conserverait son statut d'esclave tout en étant affranchi de l'esclavage dans le domaine humain, puisque le prix du rachat avait été payé. L'homme était donc racheté. Au moyen de cette terminologie, l'apôtre Paul déclare que les chrétiens ont été rachetés de l'esclavage du péché, et de ce fait sont devenus les esclaves de Jésus-Christ. Romains chapitre 6. Je répète, l'apôtre Paul déclare que les chrétiens ont été rachetés de l'esclavage du péché, et de ce fait, ils sont devenus les esclaves de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 6. Nous sommes les esclaves de Jésus-Christ. Je ajoute des esclaves d'amour. Nous avons été rachetés de l'esclavage du péché. Quelqu'un a payé le prix du rachat. nous le chantons dans nos cantiques, rachetés par le sang de l'agneau. Nous sommes gratuitement justifiés par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 24. L'esclave ne peut pas racheter sa propre liberté, sinon il ne serait pas esclave. Il ne peut donc se sauver lui-même. De quelle façon tout cela s'opère-t-il? L'apôtre Paul ne l'a pas encore expliqué. Il ne s'agit pas d'une rédemption au sens littéral, comme si une somme d'argent était payée directement. Quel que soit le prix du rachat, il n'est certainement pas payé littéralement au péché. Alors, dans quel sens sommes-nous rachetés? Qu'est-ce qui nous a affranchis? Comment le rachat s'opère-t-il? La réponse à cette question est que Dieu a destiné Christ, son Fils bien-aimé, comme étant le moyen de propitiation. Donc, B, nous avons la propitiation victime expiatoire. Je répète, nous avons la propitiation, la victime expiatoire. Le terme rendu ici par victime propitiatoire est réduit dans les diverses versions par d'autres mots comme expiation, victime expiatoire et même moyen d'effacer la souillure. Mais la meilleure traduction du terme grec est propitiation. Certes, le choix de ce terme exige une explication, mais les autres aussi. Après tout, le sens de victime expiatoire n'est pas non plus absolument évident. Or, si aucun des termes possibles n'est clair en lui-même, et que tous exigent une explication, autant expliquer le terme qui exprime le mieux le sens du mot grec. Dans ce cas, le terme à retenir est propitiation. Que signifie ce mot? La question est très importante parce que dans le paragraphe en question, l'argument de l'apôtre Paul repose précisément sur ce terme. La propitiation est l'acte par lequel une personne, en l'occurrence Dieu, devient propice ou favorable à quelqu'un. Plus précisément, il s'agit d'un acte sacrificiel par lequel une personne devient bien disposée à l'égard d'une autre. Voici donc comment la propitiation s'opérait dans le paganisme ancien. Le panthéon païen était peuplé de nombreuses divinités, des divinités de la mer, de la fertilité, des divinités de la guerre et beaucoup d'autres. Ces dieux et ces déesses étaient en proie à des fantaisies et à des sautes d'humeur. Les hommes devaient donc se les rendre propices, c'est-à-dire favorables. Par exemple, si quelqu'un projetait de partir en mer, il lui fallait s'assurer que le dieu de la mer, en l'occurrence Neptune, lui serait favorable. Pour ce faire, on lui offrait un sacrifice propitiatoire dans l'espoir qu'il permettrait de voyager en toute sécurité. La divinité elle-même est donc l'objet du sacrifice de propitiation, lequel a pour but de la rendre favorable. L'expiation, en revanche, vise l'annulation d'une faute. C'est l'acte sacrificiel par lequel le péché est effacé ou expié. l'objet de l'expiation est donc le péché. Alors que, comme on vient de le préciser, celui de la propitiation est Dieu. L'expiation vise donc à annuler le péché et les propitiations à satisfaire ou à détourner la colère de Dieu. Je répète, l'objet de l'expiation, c'est le péché. Celui de la propitiation est Dieu. L'expiation vise à annuler le péché et la propitiation à satisfaire ou à détourner la colère de Dieu. Le terme particulier en Romains chapitre 3 verset 25 apparaît le plus souvent dans l'Ancien Testament en lien avec les sacrifices de propitiation qui visaient à détourner la colère de Dieu. Dans les années 1930, un grand professeur gallois, C.H. Dodd, D-O-2-D, publia un article extrêmement influent et perturbateur à l'échelle mondiale. Cet homme avait fait profession de foi lors du réveil du pays de Galles dans les années 1904-1905. Mais en 1930, il était devenu un théologien très libéral. Il enseigna le Nouveau Testament à l'université de Manchester et plus tard à celle de Cambridge. Dans l'article en question, Dodd affirme que le mot employé en Romains chapitre 3 verset 25 ne peut pas signifier propitiation. En effet, dans le monde païen, on offrait des sacrifices propitiatoires à des divinités en proie à des fantaisies et sujettes à des sautes d'humeur de toutes sortes. Or, dans la Sainte Bible, Dieu est si bien disposé, n'est-ce pas, c'est quand même un Dieu d'amour incroyable, que Dieu d'amour et rien d'autre, et plein d'amour, qu'il a déjà envoyé son Fils, selon Jean chapitre 3 verset 16. Donc, en conséquence, comment peut-on décrire le sacrifice de la croix comme étant un acte visant à le rendre favorable? S'il ne l'était pas déjà, il n'aurait pas décidé au départ d'envoyer son Fils. Ainsi, comment la mort de Jésus sur la croix peut-elle être un acte de propitiation? Le don de son Fils est la preuve que Dieu ne peut pas se montrer plus propice qu'il ne l'est déjà. Dodd soutient donc avec force que le mot en question doit vraiment avoir le sens d'expiation, c'est-à-dire l'annulation du péché tout simplement, et non celui de propitiation, puisqu'il n'est pas nécessaire de rendre Dieu plus favorable qu'il ne l'est déjà. Sa thèse gagna la faveur de beaucoup en Occident surtout. Plus tard, lorsqu'il dirigea un projet d'édition d'une complète et nouvelle version biblique, la Bible de Dodd, il détestait tellement le terme « propitiation », il n'aimait guère mieux celui d'expiation, qu'il choisit de rendre le mot grec par moyen d'effacer tout simplement la souillure. On lui fit aussi remarquer que les deux chapitres et demi précédant Romains 3, verset 25, commençaient par Romains chapitre 1, verset 18, où il est clair que dans un certain sens, la colère de Dieu est bel et bien contre nous. Mais il refusa totalement de reconnaître qu'il s'agissait là d'une véritable colère. Pour lui, c'était une expression métaphorique signifiant qu'on ne peut échapper aux conséquences morales de nos actes si tu fais le mal, tu en subiras les conséquences. D'autres refusaient donc de croire que la colère de Dieu puisse se manifester de façon personnelle. On ne peut manquer de voir que partout dans la Sainte Bible, la colère de Dieu, peu importe la définition qu'on donne à ce mot, est intensément personnelle. Il est dit que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20, verset 5. C'est pas simplement radié d'un revers de main, effacé. La thèse de Todd, au bout du compte, détruit l'engagement intime de Dieu dans l'œuvre du salut. L'univers est en quelque sorte régi par une loi morale impersonnelle et Dieu surveille le tout à distance. Si vous faites quelque chose de mal, inévitablement vous en subirez les conséquences. Prenez garde au mauvais karma, dit-on. Dieu a alors pour tâche d'intervenir tout simplement pour vous faire échapper au mauvais karma. C'est magnifique. C'est un Dieu Saint-Nicolas. Mais ce n'est certainement pas du tout le Dieu de la Sainte Bible. Chacun des péchés que nous commettons n'est pas simplement transgression d'un quelconque code moral abstrait qui entraîne les effets du karma. Dans la Sainte Bible, le péché est d'abord et avant tout, une offense qui est infligée à Dieu. Certes, il doit être effacé, c'est le but de l'expiation. Mais le Dieu qui a été offensé doit aussi obtenir satisfaction. Ça, c'est le rôle de la propitiation. Il est vrai aussi que dans la Sainte Bible, l'expiation et la propitiation vont de pair. Il est donc difficile d'imaginer l'une sans l'autre, ce qui explique que dans certaines versions, on trouve une expression générale comme « victime expiatoire ». Mais ne perdons jamais de vue le fait que Dieu est personnellement offensé par notre révolte et qu'il est judiciairement en colère contre nous. Prenons l'exemple du roi David. Ah oui, David a commis l'adultère, auquel il ajoute le meurtre. C'est pas rien. Lorsque le prophète Nathan le confond, David se repent sincèrement et adresse à Dieu cette prière : j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Psaume 51, verset 6. Voyez-vous, dans un certain sens, on serait tenté de croire que David débite des inepties et dit n'importe quoi. Il a péché contre Bathsheba en la séduisant et en commettant l'adultère avec elle. Il a péché contre son mari, Uri, le Héthien, en le faisant tuer au combat. Il a péché contre l'enfant conçu, qui est mort. Mais même s'il avait vécu, il n'aurait jamais connu le vrai mari de sa mère. Contre son état-major, en forçant ses officiers, il a péché aussi contre son état-major, car il a forcé ses officiers à manigancer un meurtre. Il a péché contre les membres de sa propre famille en les trahissant. Il a péché contre le peuple de l'Alliance en manquant à son devoir de chef suprême de la nation. En fait, il n'y a personne contre qui David n'a pas péché. Et il ose encore dire, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Évidemment, nous serions tentés de lui dire, tu ne sais pas très bien ce que tu dis. C'est comme le président Macron a dit à Madame Le Pen, Marine Le Pen, vous dites des bêtises. Pourtant, dans un autre sens, David a tout à fait raison de s'exprimer comme il le fait, car ce qui rend le péché si terrible, abominable, exécrable et condamnable, n'est pas les conséquences qu'il entraîne pour les autres, mais le fait qu'il est d'abord et avant tout une offense terrible contre le Dieu Tout-Puissant et trois fois saint. Et c'est pour cela que déclare Jésus que le premier commandement consiste à aimer Dieu de tout son être. Il est donc le premier parce que nous le violons chaque fois que nous enfreignons n'importe quel autre commandement. C'est cela qui est si terrible. Si vous trompez votre conjoint, faites preuve de racisme, par exemple, ou que vous nourrissez de la rancune contre votre prochain, c'est toujours Dieu qui est la partie la plus offensée. Le péché revêt un caractère si exécrable parce qu'il est une offense contre lui. Nous devons alors être réconciliés avec ce Dieu que nous avons si gravement offensé. Il est entendu que nous devons aussi nous réconcilier avec ceux que nous avons offensés, mais même alors, sans réconciliation avec Dieu, nous n'avons pas obtenu grand-chose à dire vrai. Sur le plan de l'éternité, nous avons besoin avant tout que Dieu nous regarde avec faveur. La Sainte Bible présente un Dieu qui se dresse face à nous avec un regard à la fois de colère et d'amour. Et c'est cette image que Todd, le grand professeur, refusait de voir. Elle n'est pas si étrangère à notre propre expérience en tant que parents, il nous est certainement arrivé d'être en colère contre nos enfants sans pour autant cesser de les aimer. La colère de Dieu se manifeste contre nous à cause de nos péchés et de sa sainteté. S'il n'en était pas ainsi, sa sainteté ne serait plus qu'un concept vide de sens. C'est comme si Dieu disait « Eh bien, tu peux être une sorte de Hitler et exterminer plus de 10 millions de personnes, pourquoi pas? Ce ne me dérange absolument pas. Ce n'est pas mon problème. » Alors une telle attitude, croyez-moi, une telle attitude démontrerait-elle qu'il est un Dieu d'amour? Certainement pas. Ne serait-elle pas plutôt une contradiction flagrante de sa sainteté? Se montrerait-il davantage un Dieu d'amour s'il disait à ses créatures qui le dépossèdent de sa divinité ou qui le relativisent, il n'y a pas tellement de mal, je n'en ai rien à faire, je n'en ai rien à cirer. Non, non, non. Dieu jette sur nous un regard de colère qui est le résultat inévitable de la confrontation de sa sainteté avec et contre notre péché. Le plus remarquable est qu'il pose également sur nous un regard d'amour, non pas parce que nous en sommes dignes ou que nous sommes aimables même, mais parce qu'il est un Dieu qui aime. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils bien-aimé. Notez Galates chapitre 4, verset 4. Il a envoyé son Fils bien-aimé comme victime propitiatoire pour nos péchés. Une différence fondamentale sépare donc, cependant, la propitiation du paganisme et celle du christianisme. C'est pas pareil. Dans le paganisme, un être humain offre une victime propitiatoire en sacrifice afin de se rendre une divinité favorable. Dans la seconde, Dieu le Père offre Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, comme victime propitiatoire afin de se rendre lui-même favorable. Jésus est donc à la fois l'agent et l'objet de la propitiation. Il pourvoit lui-même au sacrifice de manière précisément à détourner sa colère de nous. Dieu le Père est ainsi celui qui offre la victime propitiatoire et il est celui pour qui elle est offerte. Et Dieu le Fils, il est lui-même la propitiation offerte. Peut-être vous êtes-vous déjà servi de l'illustration suivante pour expliquer le message du salut. Dans l'Évangile, Dieu est comme un juge qui doit prononcer une sentence suivant un verdict de culpabilité. Il rend donc sa sentence 5 ans de prison, une forte amende, peu importe. Puis il quitte son siège, enlève sa toque et prend la place du condamné en prison où il paye son amende. On ajoute pour conclure, voilà donc le message de l'Évangile, voilà la bonne nouvelle du salut. Mais ça, c'est une affaire de substitution. Je me suis moi-même servi de cette illustration ou d'autres semblables dans le passé, mais je ne le fais plus parce que je me suis rendu compte qu'elle peut prêter à confusion. Bien sûr, elle n'est pas fausse à tout point de vue. Elle explique bien quelque chose de la signification de la substitution pénale. Quelqu'un prend la place du coupable et subit la peine qui a été prononcée. Mais l'illustration prête à confusion parce qu'elle contient un élément fondamentalement trompeur. Dans notre société, il est difficile d'imaginer qu'un juge prenne la place d'un coupable. Cela ne cadre pas tellement avec notre système de justice où le juge est censé d'être un arbitre impartial, le représentant d'un système de justice qui le surpasse en autorité. L'offense n'est donc pas faite au juge, mais pas du tout. S'il a été victime de l'agression, la partie offensée, il doit se récuser lorsque l'agresseur comparaît devant lui parce qu'il doit préserver le principe de neutralité dans l'administration de la justice. C'est pour cela que nous disons que les criminels sont coupables envers l'État, qu'ils ont commis donc une infraction à la loi, mais ils n'ont pas commis une infraction ou une offense auprès du juge ou envers un juge. Si dans notre système de justice, un juge prononçait la sentence avant de descendre prendre la place du coupable, on dirait qu'il a commis une injustice, car le coupable doit purger sa peine. le juge n'a pas le droit d'écarter simplement les exigences de la loi. Il est un arbitre indépendant du système. Il n'est pas du tout la partie offensée. Prenons un autre exemple. Supposons qu'une bande de voyous vous attaque. Encore aujourd'hui, on vient d'annoncer qu'une jeune fille de 16 ou 17 ans a donné un coup de couteau dans le cœur d'une autre jeune fille de 17 ans. Et évidemment, elle est morte. Ça aura des conséquences. C'est pas possible autrement. Autrement, voyez-vous, on va faire n'importe quoi. Bien sûr, c'est donc quelque chose qui doit être puni. Oui, je répète, prenons cet exemple. Supposons qu'une bande de voyous vous attaque, ils vous rouent de coups horriblement. Il y en a même qui violent la victime si c'est une jeune femme. Et s'ils sont une bande, ils la violent à tour de rôle. Ils vous brisent les os et vous laissent pour mort. Et vous finissez, si vous avez de la chance, à l'hôpital. Et je viens maintenant vous voir au bout de quelques jours en vous disant « Réjouis-toi, Evelyne. J'ai retrouvé tes agresseurs et je leur ai pardonné. » Que me répondriez-vous, je vous le demande? Je pense que je vous ferai retomber instantanément dans le coma. Vous me lanceriez sans doute. Non, mais ça va pas la tête. Tu te permets, toi, de leur pardonner de ce qu'ils m'ont fait à moi? Ce n'est pas toi qui as subi toutes ces violences. Ce n'est pas toi qui est étalé sur le lit maintenant à l'hôpital. Oh oui, vous auriez tout à fait raison. Seule la partie offensée peut accorder son pardon à l'offenseur. De quel droit le juge de notre illustration précédente que je vous ai expliquée peut-il se montrer compatissant envers des criminels 100 fois coupables? Ce serait totalement contraire à la justice. La chose est totalement différente pour Dieu, car il est à la fois le juge et la partie la plus offensée. Je répète, la chose est différente pour Dieu, car Dieu est à la fois le juge et la partie la plus offensée. De plus, il n'a absolument jamais besoin de se récuser puisqu'il est toujours parfaitement impartial. Sa justice est parfaite à tous égards. Il ne commet jamais d'erreur. À la différence des juges humains, Dieu n'administre pas un système de justice qui le dépasse en autorité. Quand nous péchons contre lui, nous ne nous contentons pas de violer la loi devant un observateur neutre et impartial. Mais c'est sur ce point-là que le professeur Todd se trompe grandement. Dieu est la partie la plus offensée et il est également notre juge. Il manifeste donc sa colère contre nous en toute justice, parce qu'il est saint et il manifeste son amour envers nous parce que par nature, il est un Dieu d'amour. Il envoie donc son Fils bien-aimé comme victime propitiatoire pour nos péchés afin de détourner sa colère de nous. Mais il nous faut expliquer de manière plus précise de quelle façon la justification s'opère pour le pécheur. La justice de Dieu se manifeste par le moyen de la croix de Christ, selon Romains chapitre 3, versets 25 et 26. Je répète, la justice de Dieu se manifeste par le moyen de la croix de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 3, versets 25 et 26. Dieu n'a pas destiné Christ comme victime propitiatoire d'aborder et avant tout pour nous sauver ou pour prouver son amour. Il l'a fait surtout afin de montrer sa justice. Je répète, il l'a surtout fait pour montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni, s'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant, selon le verset 25, les mots « les péchés commis auparavant » ne désignent pas ceux, pas du tout ceux, qui précédaient notre conversion, mais surtout ceux qu'avaient commis les êtres humains avant la mort de Jésus-Christ sur la croix. D'où les mots « mais maintenant » « aber heute » « mais aujourd'hui » Notez le verset 21. Il n'y avait aucune peine absolue infligée jusque-là pour ses péchés. La justice n'allait être véritablement rendue qu'à la croix, comme l'explique l'apôtre Paul. Dieu montre ainsi sa justice dans le temps présent, et cela de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui ou celle qui a la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 26. La croix n'est pas seulement l'expression de l'amour de Dieu, mais aussi celle de sa justice. Le plan du Dieu sage prévoit la façon dont Jésus rend le Père favorable ou propice par la propitiation. Sous tout rapport, la justice divine se met en œuvre en Christ, lequel porte notre malédiction et la peine de nos péchés en son propre corps sur le bois. Pour cette raison-là, les chrétiens disent que la colère de Dieu est satisfaite. Cette expression ne signifie pas que dans son ciel, Dieu arbore un air béat et repu, mais que les exigences de sa sainteté sont remplies dans le sacrifice de son propre Fils. Ce sacrifice propitiatoire satisfait sa justice, de sorte que tous peuvent voir que le péché mérite la peine que Dieu a lui-même imposée et que cette peine a été appliquée. Ainsi, Dieu est lui-même justifié en se manifestant comme un être pleinement juste d'une part et d'autre part en justifiant l'impie. Romains chapitre 4, verset 5. La justification concerne d'abord et avant tout la satisfaction de la justice de Dieu. Il rend la justice toute en justifiant l'impie. C'est le point central de l'Évangile. À ceux qui affirment que la substitution pénale n'est qu'une façon parmi d'autres de décrire le message de l'Évangile, je dois respectueusement insister pour dire qu'en fait, la propitiation est ce qui lie ensemble toutes les analogies bibliques qui servent à décrire la croix, et j'affirme cela pour deux raisons. A. Toutes les descriptions théologiques de la croix dans la Sainte Bible lui sont liées. Par exemple, la croix nous réconcilie avec Dieu. Pourquoi devons-nous être réconciliés? Parce que nos péchés nous ont séparés de lui. Cette séparation n'est-elle pas causée par la justice de Dieu, laquelle condamne nos péchés? Notre péché nous sépare donc de lui. Prendre des mesures à l'égard de notre péché, cela permet donc de nous réconcilier avec Dieu. C'est précisément la propitiation qui nous rend Dieu favorable malgré notre péché. Autre exemple, la nouvelle naissance est absolument indispensable. Nous avons besoin d'une nouvelle nature au moyen de l'action transformatrice de l'Esprit Saint. Le salut est bien plus large que la simple obtention du pardon. Par contre, Dieu nous donne-t-il une nouvelle nature sans tenir compte de tous nos péchés, de notre méchanceté et de notre révolte contre lui? Ou au contraire, la capacité spirituelle que donne la nouvelle mature n'est-elle pas, je dis nature, excusez-moi, je répète, ou au contraire, la capacité spirituelle que donne la nouvelle nature n'est-elle pas rattachée au fait que nous avons été réconciliés avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ? Et c'est pour cette raison-là que l'Évangile selon saint Jean décrit le don de l'Esprit comme découlant du triomphe de Jésus-Christ à la croix. Il est donc conditionné par la croix. Il existe une autre raison, plus fondamentale que la première. B. Eh bien, la dimension propitiatoire de la croix, c'est le point central de l'Évangile, parce qu'elle est elle-même tissée dans la trame narrative de la Sainte Bible. Lorsque l'être humain pêche, commet un péché, la première fois contre Dieu, celui-ci intervient, Dieu intervient en prononçant une sentence de mort. Le refrain qui se trouve dans la Genèse chapitre 5. Un tel vécut tel nombre d'années, en ce temps-là, presque 1000 ans. Puis voilà qu'il meurt. Tout au long du récit biblique, Dieu fait suivre le péché de jugement parce qu'il est profondément offensé. Exemple, le déluge. Les gens sont devenus de plus en plus moins vieux. Et donc, surtout après le déluge. Mais l'idolâtrie, c'est le péché qui excite par-dessus tout, qui excite sa colère. C'est l'acte par lequel l'homme dépossède Dieu de sa divinité. L'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux, rappelle-toi, parce que lui seul est Dieu. L'idolâtrie, c'est un péché à dimension essentiellement verticale, alors que le péché contre nos semblables ont une dimension horizontale. Tous les maux de nos sociétés découlent d'abord en avant tout du fait que les êtres humains privent Dieu de sa divinité. Dans nos efforts pour expliquer à notre entourage ce que est le christianisme, nous mettons parfois l'accent sur la dimension sociale du péché afin de montrer que la foi chrétienne est socialement pertinente. Cette approche ne rend pas compte de la véritable nature du péché. Même si toutes les manifestations horizontales du péché sont terribles et horribles et qu'il faut y faire face en temps et lieu, il faut les replacer dans le cadre plus large de l'idolâtrie. C'est ce que fait l'apôtre Paul lorsque, en Actes chapitre 17, il s'adresse à la foule païenne d'Athènes. Il définit le problème en termes d'idolâtrie, tout ce qui détrône Dieu, tout ce qui place l'être humain au centre, à la place de Dieu. En bref, eh bien, le besoin de réconciliation avec Dieu se trouve au centre de la grande histoire qui raconte les récits de la Sainte Bible. Ceci nous ramène directement à l'expiation du péché et à la propitiation. La description d'un Dieu qui destine son Fils à être une victime propitiatoire ne constitue pas un simple exemple de violence cosmique faite à un enfant. Mais Dieu, maltraitant son propre Fils, à peine deux chapitres plus loin, nous disons et nous pouvons lire, car lorsque nous étions encore sans force, Jésus-Christ, au temps marqué, il est mort pour des impies que nous sommes. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut être mort pour un homme de bien. Mais Dieu, il prouve son amour envers nous. Et ceci en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Il est donc mort à notre place. Romains chapitre 5, versets 6 à 8, pour nos péchés. Dieu prouve donc son amour en ceci. Christ est mort pour nous. Ne pensons pas que le Père soit en conflit contre Christ et assouvisse ainsi sa colère sur lui. Dieu prouve son amour en envoyant Jésus-Christ. Et cette intervention s'inscrit dans la nature même de l'incarnation et du mystère de la Trinité. C'est le plan de salut du Dieu trinitaire. Le Père souffre de perdre son Fils, mais il le fait par amour pour son peuple. Le Fils, quant à lui, prouve son amour envers nous en obéissant à la volonté de son Père et en se conformant à son plan merveilleux, de manière à ce que ce plan de Dieu en trois personnes se réalise pleinement. Ce plan consiste en ce que la justice de Dieu est légitimée et sauvegardée en vertu du fait que Christ porte nos péchés et que les normes divines sont pleinement respectées, alors même que nous sommes libérés de la condamnation et avons obtenu le pardon. Dieu manifeste donc sa justice au moyen de la croix. Mes chers amis, où se trouve la preuve la plus évidente de l'amour de Dieu? À la croix. Où se trouve la preuve la plus évidente de la justice de Dieu? À la croix. C'est là que la colère et la miséricorde se conjuguent. C'est là le lieu où la sainteté et la paix s'embrassent. La croix est le moment le plus fort de l'histoire de la rédemption. En résumé, notre péché offense Dieu et ce dernier se dresse contre nous en jugement. Mais le même Dieu nous aime malgré tout. Cet important passage de l'apôtre Paul aux Romains expose avec vigueur la nature du problème qui touche tous les humains et il en apporte l'ultime solution. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya donc son Fils bien-aimé, et par le seul sacrifice de Jésus, Dieu intervient de manière finale pour punir le péché tout en pardonnant aux pécheurs. Voyez-vous? Dans un sens absolu, les péchés étaient auparavant restée en quelque sorte impunie. Mais ils reçoivent maintenant leur punition dans la personne même du Fils de Dieu. Dieu est donc à présent celui qui est juste ainsi que celui qui justifie l'impie. C'est donc par la foi que nous recevons ce don-là. Mes chers amis, êtes-vous un véritable croyant? Ou faites-vous partie de ces millions de personnes qui, alors qu'elles commencent à saisir la signification de la croix, écartent d'un revers de la main un récit qu'elles taxent de scandaleux? Un Dieu qui vit, qui meurt et qui vit. Un Dieu qui est en colère contre nous tous, en nous aimant malgré tout. Une croix par laquelle Dieu manifeste sa colère sur lui-même, un scandale. Mais que ferez-vous au dernier jour, lorsque vous devrez lui rendre compte, quand vous lui direz que vous avez entendu son message, mais que vous n'en avez fait aucun cas? Chers amis, toutes les grandes vérités de la foi chrétienne et toutes les bénédictions dont nous sommes gratifiés, tant dans la vie présente que dans celle à venir, et pour lesquelles nous glorifions Dieu, découlent de la croix sur laquelle Jésus-Christ a versé son sang. Avons-nous reçu le précieux don de l'Esprit-Saint? Eh bien, Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Jouissons-nous de la communion des saints. Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Recevons-nous la consolation divine dans cette vie et face à la mort? Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Dieu veille-t-il sur nous dans la fidélité, dans la providence et la miséricorde à cause de son alliance? Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Sommes-nous remplis d'espérance dans l'attente de la félicité céleste à venir? Christ nous a acquis cela sur la croix. Attendons-nous avec impatience le moment où nous pourrons revêtir notre corps céleste au dernier jour? Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera sont-ils pour nous une glorieuse réalité? Christ nous a acquis cette espérance vivante sur la croix. Avons-nous revêtu la nature nouvelle grâce à laquelle nous cessons de nous considérer comme des ratés ou des parias sur le plan moral, une source de déception pour nos parents, grâce à laquelle nous nous voyons au contraire comme les objets de l'amour profond de Dieu, des hommes rachetés par Christ, déclarés justes par Dieu lui-même, parce qu'il a offert son Fils Jésus comme victime propitiatoire pour nos péchés? Toutes ces choses nous sont acquises par Christ sur la croix, et Dieu les accorde à tous ceux qui croient en lui. Ces grands thèmes de la foi ont inspiré de nombreux cantiques du passé et du présent. William Rees a composé un cantique intitulé « Un amour aussi vaste que l'océan ». Sur le mont du calvaire, ta grâce jaillit avec abondance. Ta miséricorde se répand avec une profusion immense. Ton amour s'écoule du ciel tel un fleuve intarissable. Ta paix et ta justice parfaite embrassent un monde coupable. Les thèmes de la colère de la patience et de l'amour de Dieu reviennent fréquemment dans les Saintes Écritures et atteignent leur apogée à la croix. Pour quel péché, Jésus, pour quelle offense, a-t-on sur toi prononcé la sentence ? À quoi tu fais, innocente victime ? Quel est donc ton crime ? Pour me sauver, sacrifice adorable, le maître meurt pour l'esclave coupable que je suis. Le bon berger meurt pour sa brebis chérie et il donne sa vie. Chers amis, nous avons certes raison de débattre les grandes questions de la théologie, de l'heure, et d'essayer de mieux comprendre, par exemple, de quelle façon les auteurs du Nouveau Testament citent et utilisent les textes de l'Ancien Testament et comment nous devons définir ces réalités. Mais ne perdons jamais de vue que, vu la question la plus essentielle de toutes, Dieu était en Christ, oublions jamais cela, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Oui, oui, cruel dilemme, comment l'éclatante sainteté que nulle ombre ne peut obscurir pourrait-elle de la révolte supporter le relent fétide sans rabaisser sa propre gloire, déjà par trop amoindrie ? Quel dilemme, comment la vérité lui luira-t-elle pour déclarer que Dieu est amour, tout en échappant à la honte, de la haine, de l'esclavage, du cœur et de la mort amère, le fardeau de la malédiction méritée, de l'effroyable gâchis des hommes. C'est la croix, oui, la croix, lieu de rencontre sacrée, lieu qui ne souffrant ni compromis ni perte, abrite l'amour et la sainteté de Dieu dans tout l'éclat de sa grâce. Le grand dilemme ne se pose plus. La croix, oui, oui, la croix. Ce Dieu si saint et si bon dont le cher Fils succombe manifeste par ce moyen sa justice toute en justifiant l'impie que je suis. Chers amis, nous allons terminer là par la prière. Prions. Seigneur, en nous ordonnant de te rendre le culte qui t'est dû, comme au Créateur du ciel et de la terre, au Maître souverain de toutes choses, au Sauveur miséricordieux, en qui seul réside toute notre espérance, tu n'as pas voulu que nous puissions nous acquitter de ce devoir par de vaines démonstrations extérieures, par des actes auxquels le cœur ne participe pas, par des paroles que démentent nos sentiments secrets. Tes regards pénètrent au fond de nos consciences et tu vois, ô Dieu, quelles sont nos dispositions. Et si c'est vraiment en esprit et en vérité que nous t'adorons en ce moment, et si notre cœur était animé d'une foi et d'un amour sincère, jamais il ne nous serait pénible de te prier, de lire et de méditer ta sainte parole. Mais les moments consacrés à ton culte, soit publics ou particuliers, seraient pour nous des moments de bonheur et de paix. Ce n'est point en multipliant nos exercices de piété que nous apprenons à te mieux aimer, ô Seigneur. Si nous avons pour toi un véritable amour, il nous sera doux de te le dire et d'implorer tes bénédictions. Or, si nos cœurs sont froids et indifférents, nos heures de prière et de culte seront des heures de fatigue et de contrainte. Que chacun de nous interroge sa conscience et ne méconnaisse point les vrais sentiments de son cœur. Que ta grâce agisse en nous pour nous attirer à toi et autour de nous pour nous défendre contre tout danger. Aie pitié, pitié de ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. Que ta bonté se fasse sentir à toutes les créatures et qu'elle s'étende en particulier, oui, en particulier sur nos familles et sur nos amis. Ô Seigneur, que ton Saint-Nom soit loué et béni à jamais. Amen. Amen. Et chers amis, à demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer. Et je vous enlace maintenant, tous, et je vous embrasse avec tout mon amour. Et soyez bénis, et à demain matin pour la suite de cette série. Au revoir.